Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Jacques-Yves Molima.
Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal parlé. Voici les titres. Les États-Unis s'opposent au vote électronique en République démocratique du Congo. C'est l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, qui l'a dit hier à New York lors d'une réunion informelle. Pour l'ambassadrice américaine à l'ONU, un tel recours représente un risque colossal. Les travaux d'enquête sur la répression de la marche du 21 janvier dernier se poursuivent. Au moins 16 personnes sont déjà auditionnées, annonce le porte-parole de cette commission. Georges Kapiamba, à cet effet, encourage les familles de victimes de passer au ministère des Droits humains pour leur témoignage. Et puis cet ultimatum du ministre de Petenti, Kemeri Okundji, à l'endroit de tous les détenteurs des antennes V7. Ils ont jusqu'au 28 février prochain pour se faire identifier auprès de l'autorité de régulation. Kemeri Okundji est l'invité de Radio Kapi ce matin. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour. Les États-Unis s'opposent au vote électronique en République démocratique du Congo. L'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, l'a dit hier lundi à New York. C'était lors d'une réunion informelle à l'ONU sur le processus électoral en République démocratique du Congo. Présent à cette rencontre, le président de la CENI a justifié les recours à la machine à voter par la réduction du poids de matériel à déployer sur l'ensemble du territoire national. L'ONG Human Rights Watch a, de son côté, évoqué la crainte de fraude lors des élections en réclamant de la transparence. Plus de détails avec Billy Yvan Lutumba.
Nous sommes très préoccupés de voir l'insistance de la Commission électorale nationale indépendante CENI à vouloir utiliser un système électronique de vote, a affirmé la diplomate citée par l'AFP. Selon Nikki Haley, un tel recours représente un risque colossal et les États-Unis souhaitent le recours à des bulletins papier pour qu'il n'y ait pas de doute sur les résultats. Participant à cette rencontre, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nanga, a pour sa part précisé que l'option prise de recourir à la machine à voter permet de réduire le poids de l'ensemble des matériels à déployer des 16 000 tonnes à moins de 8 000 tonnes. Lors du débat, la Côte d'Ivoire a mis en garde contre le risque d'élections mal préparées, tandis que les Pays-Bas indiquaient respecter la décision de la CENI de recourir à un système électronique tout en lui demandant de tester rigoureusement le matériel avant les scrutins. On ne peut pas permettre un nouveau report des élections et le président Kabila ne peut pas briguer un nouveau mandat car la Constitution ne le permet pas, a souligné Nikki Haley. Elle a aussi évoqué des informations selon lesquelles le président sortant ne chercherait pas à imposer quelqu'un de son choix pour lui succéder. Peut-on lire dans cette dépêche de l'agence France-Presse.
Autre information en Ituri, les autorités ecclésiastiques et la société civile de Mahagi accusent le gouvernement d'entretenir la crise observée depuis une semaine en territoire de Djougou, à 72 km au nord de Bounia. C'est là en vue de trouver des raisons pour justifier, selon elles, la non-tenue des élections en RDC. Ces points de vue sont exprimés pendant que le vice-premier ministre en charge de l'intérieur est arrivé à Bounia ce lundi. Isaac Moyopé.
La dernière déclaration qui accuse le gouvernement a été faite ce lundi dans une conférence de presse par les représentants légaux de la communauté Emmanuel en RDC. Pour lui, les drames des Djougou sont des scénarios entretenus par les acteurs politiques du pays. Il affirme que les autorités ne veulent pas de l'alternance au pays pour s'enrichir sur les dos d'une population déjà paupérisée et meurtrie. Le professeur Bungi Shabako Kato.
L'Ituri est en train d'être sacrifié sur l'autel de la politique congolaise. C'est ce que nous devons justement refuser. Dans ce contexte, les Ituriens ne doivent pas s'attendre à grand-chose de la part de ceux qui devraient nous protéger.
Le porte-parole de la société civile de Mahagi s'insurge contre les liens faits par les présidents de la CENI entre l'organisation des élections et les exactions des Djougou. Corneille Nanga a en effet dit à la presse il y a une semaine que cela pouvait impacter négativement sur l'organisation des scrutins. Pour Maître Mokili Mungunuti de la société civile, le gouvernement a l'intention de ne pas organiser les élections.
Nous sommes très inquiets par rapport à cette déclaration-là du président de la CENI qui veut marier ses avec les élections qui doivent avoir lieu à la fin de l'année 2018. Le président de la CENI voudrait faire croire au peuple ivoirien que le gouvernement central et le gouvernement provincial ne peuvent pas arriver à mettre fin à ces conflits.
Le vice-premier ministre Emmanuel Chadari, qui est à Bounia depuis lundi dans l'après-midi, n'a pas encore répondu à ses préoccupations. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Justement, à peine arrivé à Bounia hier après-midi, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a indiqué avoir été envoyé par le président de la République, Joseph Kabila, pour s'enquérir notamment de la situation qui prévaut à Djougou. Emmanuel Ramazani Chadari s'est confié au micro de Martial Kissa.
Le chef de l'État m'a demandé, comme d'habitude, de venir ici en itinérance dans une mission d'administration de territoire pour justement marquer la situation qui se passe dans l'Ituri dans l'ensemble et plus particulièrement la situation des Djougou qui a commencé depuis un certain temps. Alors je viens donc ici dans une mission de sécurité pour la province de l'Ituri et je vais échanger avec tout le monde, avec les services, avec les autorités politico-administratives et à la fin de la mission, je vous dirai ce qu'on a fait et les solutions que nous avons apportées.
Plusieurs fois, ce sont les pour déplorer l'absence de l'autorité de l'État à territoire de Djougou. Est-ce que vous-même, quand vous êtes à Ituri, vous allez vous déplacer à Djougou?
J'ai déjà été à Djougou, j'étais à Tara, c'est pas dans le territoire de Djougou. Attendez, on va voir.
Puisque nous parlons de l'Ituri, sachez que cette province enregistre déjà plus de 60 morts, plus de 2000 cas incendiés et plus de 200 000 personnes déplacées internes suite aux dernières exactions de Djougou. Ces chiffres revus à la hausse sont livrés par le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA, en Ituri. Pour son responsable, la situation humanitaire est grave. Il invite le gouvernement à stabiliser la zone en vue de permettre le retour de ces déplacés dans leur village. Idrissa Kouté est au micro de Jean-Claude Loki.
La situation humanitaire s'est beaucoup détériorée depuis la dernière mise à jour. À la date d'aujourd'hui, nous avons plus de 10 000 personnes déjà enregistrées seulement dans le site. Mais ceux qui sont éparpillés dans des familles d'accueil dans la ville de Bounia, nous parlons de plus de 8 000 personnes seulement ici dans la ville. Donc si vous totalisez les deux, nous sommes dans les environ 20 000 personnes déjà déplacées seulement ici dans la ville de Bounia. Il y a des gens qui passent nuit en plein air, d'autres même devant l'entrée de l'hôpital. C'est une situation assez dramatique. Il y a des villages entiers qui sont partis dans la fumée. Ça, ce n'est que le rapport que nous recevons des partenaires qui se trouvent dans les endroits où il y a l'accès. Nous, en tant qu'humanitaires, on donne l'aide aux gens qui sont dans les besoins, mais les autorités ont leur part à jouer, pacifier les communautés et maintenir l'autorité de l'État pour permettre à ces déplacés de regagner les villages d'origine et recommencer leur vie.
Répression de la marche du 21 janvier dernier, nous l'avons dit au sommaire, les travaux d'enquête évoluent sans embâche au ministère des Droits humains où se réunissent chaque jour les membres de la commission mise sur pied à cet effet. Jusqu'à hier lundi, 16 personnes ont été auditionnées par la commission. Georges Kapiamba, porte-parole de cette commission, encourage les familles des victimes de ne pas avoir peur de passer au ministère des Droits humains pour déposer leur témoignage devant la commission. Pour lui, l'heure n'est pas encore aux analyses des récits qui rapportent les proches de victimes. Il est au micro d'Askenzi Biataoro.
Pour la semaine passée, de lundi jusqu'à vendredi, nous avons traité 13 cas. Nous venons d'auditionner 3, ce qui nous permet d'avoir déjà 16 cas traités, ce qui fait que d'ici la fin de la semaine, le nombre pourra augmenter. Nous sommes encore à un stade où nous écoutons les gens, nous enregistrons leurs récits. Il va arriver aussi un autre moment où la commission va procéder à des vérifications de manière à asseoir aussi sa conviction par rapport aux faits lui exposés par chacune des personnes qui aura comparu devant nous. Ceux qui pensent avoir des réserves puissent communiquer d'abord avec la commission. Il y a des numéros de téléphone qui ont été déjà communiqués, qui défilent encore sur plusieurs chaînes. Ils peuvent appeler pour soumettre leur cas et qui sera soumis à l'Assemblée générale de la commission pour traitement.
Entre-temps, tous les acteurs qui militent pour les droits de l'enfant au Sud Kivu veulent en finir avec le phénomène enfant-soldat. Pour cela, plusieurs actions sont entreprises pour atteindre zéro enfant dans les rangs des forces et groupes armés. C'est l'essentiel de la campagne lancée hier lundi à Sangui, en territoire d'Uvira. C'était en marge de la célébration de la journée de l'enfant-soldat, hier 12 février. Emmanuel Elamejiwa Kabedi était sur place à Sangui.
C'est le ministère provincial de la Justice en collaboration avec la MONUSCO et bien d'autres partenaires comme l'UNICEF qui ont célébré la journée de l'enfant soldat dans la cité de Sangué en territoire d'Uvira. Emmanuel Kamenyero, directeur de cabinet du ministre, parle des avancées réalisées au sud de Kivu.
Plusieurs séances de sensibilisation et de formation ont été organisées par le gouvernement provincial du sud de Kivu avec les différents partenaires. La conjugaison de nos efforts nous a amené à atteindre les résultats satisfaisants. Les phares de C ont été radiés de la liste noire des armées qui recrutent les enfants.
Pour parvenir à atteindre l'objectif de zéro enfant soldat, l'UNICEF travaille avec d'autres partenaires de terrain. Stino Bayoya, de l'Association des volontaires pour la récupération des enfants orphelins abandonnés.
Pour l'année 2017, nous avons séparé 89 enfants qui ont bénéficié de la prise en charge. Et pour cette année 2018, avec les fonds de UNICEF, nous allons sortir 160 et nous allons les rassurer la réintégration socio-économique.
Sur place à Sangé, des officiers supérieurs de FARDC et l'UEPNDDR ont sensibilisé la communauté sur le slogan « Zéro enfant dans les groupes armés ». De retour de Sangé, Emmanuel Elamejoa Kabedi, Radio Kapi.
Il est 7h10 à Gbadolité. Autre actualité, le député national et premier ministre honoraire Adolphe Muzitu a déposé hier lundi un mémo auprès du premier ministre Bruno Tshibala concernant la situation des vaches dans les provinces du Kwilu et de Kwango. Dans ce mémo, il recommande au premier ministre d'instruire ses collaborateurs afin qu'ils prennent des mesures d'encadrement et d'apaisement pour la population. Pour Adolphe Muzitu, ceci permettrait de mettre un terme à la psychose qui règne au sein des communautés et éviter des conflits des terres dans cette partie du pays. On l'écoute au micro de Billy Ivan Lutumba.
Il y a une espèce de psychose dans la population qui refuse de manger tout ce qui est viande des vaches. Il faut qu'on examine la santé. On a des administrations appropriées pour examiner la situation de santé de ces bêtes. Que les autorités de l'exécutif descendent sur le terrain pour identifier ces gens. Quelles sont leurs identités proprement dites? Il faudrait qu'on puisse soumettre ces commerces aux lois du pays de manière à ce que s'il y a des taxes à payer, qu'on puisse les taxer. Moi, je suis plutôt pour une option qui consiste à suspendre ces commerces et l'installation de ces bouviers de ces animaux dans ces régions-là, le temps que la situation se calme, le temps que le gouvernement prenne des dispositions, accompagne le processus, apaise la population. Moi, je suis député, je n'ai fait que proposer. Je pense au gouvernement de prendre des dispositions. Moi, je pense que c'est urgent. Et moi, j'ai peur que ça débouche sur un conflit interethnique parce que, déjà, la population elle-même disait que si le gouvernement traînait, elle va se prendre en charge.
Dans la province de l'Équateur, précisément Mbandaka, sur l'Observatoire citoyen de l'environnement, se félicite de l'initiative annoncée pendant le week-end par le gouvernement de la RDC d'associer celui de Brazzaville en vue de la gestion collégiale de la tourbière située le long de la frontière entre les deux Congos. Cependant, l'Observatoire qui a analysé cette affaire hier pose des préalables, entre autres l'accompagnement des experts nationaux et internationaux, la représentativité des populations riveraines et la transparence dans la gestion des ressources qui seront ainsi générées. Célestin Engelemba, coordonnateur de l'Observatoire citoyen de l'environnement, est au micro de Paul-Richard Malengela.
C'est une bonne initiative, les deux pays frontaliers qui se mettent ensemble pour la gestion de cette tourbière. Mais dans notre camp, nous pensons dire à notre gouvernement, c'est pas intéressant de faire une négociation et puis on est en position de faiblesse. Donc pour y arriver, le gouvernement, en allant là-bas, il doit certainement tenir compte de la bonne représentativité. Il faut pas seulement prendre les politiques à aller, mais il faut aussi tenir compte de la société civile qui y est aussi partie prenante de la gestion de ressources naturelles. Ça c'est un. Et puis de deux aussi, il faut tenir compte des experts locaux ou nationaux. Ils ont la maîtrise de la situation, ils savent le milieu, ils savent aussi la forêt et les ressources. Nos amis de Greenpeace qui ont commencé déjà l'expertise à cette tourbière, ils doivent aussi être associés. Et enfin, la gestion doit être transparente pour que les retombées puissent arriver au niveau de la base. Et parce que si vous écoutez dans tous les pays, la société civile ne cesse de dire il y a la gestion des ressources naturelles, mais la communauté n'est pas bénéficiaire. Alors ce n'est pas intéressant.
Pendant cette une mission d'inspection de la Banque mondiale et du ministère des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, séjournée depuis samedi dans le sud d'Ubangi. Elle est allée évaluer les niveaux d'exécution finale des travaux de réhabilitation de la route Akula-Gemenali-Bengezongo, longue de plus de 300 km. Reportage Dominique Olombi-Mungapangi.
La route Akula-Gemenali-Bengezongo, qui constitue l'épine dorsale de l'économie du sud d'Ubangi, est remise au trafic depuis 3 mois. C'est après les travaux de réhabilitation exécutés par l'entreprise chinoise Zhengen Technical Corporation, une entreprise qui a réussi là où 3 autres entreprises ont brillé par les détournements de fonds. La Banque mondiale, qui a financé ces travaux avec 20 millions de dollars, est descendue sur le chantier faire une dernière évaluation après l'inspection faite en décembre dernier par le ministre national des ITPR, Thomas Luhaka, qui avait estimé que certaines imperfections devraient être corrigées avant la remise officielle de la route aux autorités du Sud-Ubangi, ce qui explique cette mission conjointe de la Banque mondiale conduite par le coordonnateur chef de projet de réhabilitation de cette route. Aussitôt arrivée, la délégation conjointe a visité samedi les tronçons routiers à Kula-Gemena. Dimanche, elle a inspecté l'axe Gemena-Libenge avant de boucler la boucle ce lundi par l'axe Libenge-Zongo. Les usagers de cette route qui relie la Mongala au Sud-Ubangi se disent déjà satisfaits de l'état actuel de ces tronçons qui revivifie l'économie de cette province, mais à condition qu'ils se maintiennent. Mbandaka, Dominique Wolombi-Mongapangé, Radio Okapi.
Actualité, Afrique monde.
En international, d'abord l'Afrique du Sud, plus de 8 heures de réunion et aucune annonce. C'est une réunion qui aurait dû sceller l'essor du président Jacob Zuma. La direction de son parti, l'ANC, s'est réunie toute la journée de lundi à huis clos dans un hôtel à l'extérieur de Pretoria pour discuter d'un départ anticipé du chef de l'État. Mais à l'issue de la réunion, aucune annonce n'a été faite. Depuis une semaine, la pression s'est accentuée pour que le président Zuma, embourbé dans les scandales, démissionne le plus rapidement possible. En France, compte caché, montage complexe et mensonges répétés. Ce lundi 12 février s'est ouvert à Paris le procès en appel de l'ex-ministre du budget, Jérôme Cahuzac. Il avait dissimulé avec son épouse 3,5 millions d'euros au fisc et avait été condamné à 3 ans de prison ferme pour fraude fiscale et blanchiment en 2016. Avant de s'expliquer sur le fond de l'affaire, Jérôme Cahuzac a confessé hier sa crainte d'aller en prison.